ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour?
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2, c'est la voix du mag qui commence. Aujourd'hui, une émission... C'est pas ça, t'es d'accord avec moi?
C'est pas du tout ça.
Bon, on reprend. C'était bien parti, c'est dommage quoi. Bon, c'est reparti. Parce que ça a commencé directement. Aujourd'hui, nous recevons Rémé. Alors ben ouais, c'était logique en fait. Bon bref. Bon ben je reprends, hein. Désolé. Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2, c'est la voix du mag qui commence. Aujourd'hui, nous recevons Rémé, une illustratrice de l'intime et du discontinu, qui trace des lignes, qui raconte pour elle des corps, des silences, des tensions. La feuille devient miroir, mais faut-il encore connaître son reflet? Bonjour Rémé, bienvenue au mag.
Bonjour.
Première question, peut-être tu peux, pour débuter, te présenter, raconter un petit peu ton parcours artistique.
Alors moi, à la base, je suis architecte, diplômée d'État, et j'ai fait de l'urbanisme, et ensuite, on s'est rendu compte que la société m'handicapait de par ma santé. Donc j'ai arrêté tout ça, et je me suis lancée dans l'art-thérapie. Ça, c'est le parcours, on dira, universitaire. Sauf que moi, depuis toute petite, je dessine, parce que c'est ma façon d'échapper au quotidien, qui était plutôt tumultueux durant mon enfance. Et je me suis toujours dit que je voulais m'exprimer ainsi, en fait, par le dessin. Donc c'est vraiment mon parcours artistique. Je dirais que je suis une artiste autodidacte, et à la fois, de par mes études, j'ai appris à dessiner les perspectives, des choses plus rigides, plus normées, plus avec un protocole. Et à côté, c'était mon imagination et mes rêves d'enfant qui s'exprimaient.
Mais d'ailleurs, quand on est enfant, comment ça s'impose, je dirais, le dessin? Parce qu'on est traversé par plein d'élan artistique, on est sollicité, puisque ça reste très lié à l'univers de l'enfance, en fait. Le dessin, la peinture, des choses comme ça. Toi, en tant qu'enfant, est-ce qu'il y a ce truc de se dire vraiment, je pense avoir trouvé ce qui va être important pour moi côté étincelle, toi?
Je ne sais pas. Je pense pas que quand j'étais petite, je me disais « Ah, j'ai trouvé mon médium ». Je me disais juste « Ça me fait du bien, ça m'échappe. Je m'échappe de tout ça, en fait ». Oui, c'est qu'après, avec les psychothérapies ou le travail sur moi-même, je me suis dit « Mais en fait, j'avais trouvé mon outil depuis toute petite ». Et ma mère gardait tout. J'ai de la chance, enfin, à part quelques tumultes à côté où on a perdu des affaires. Mais... Et on a retrouvé des dessins où je me dessinais déjà, en fait, moi-même.
C'est vrai que c'est toujours difficile, rétrospectivement, de savoir. Là, tu parles de se faire du bien, toi, à travers le dessin. Est-ce qu'enfant, on a déjà cette perception de devoir avoir un lieu, tu sais, un univers à soi? En fait, c'était aussi déjà peut-être un lieu refuge ou...
Pour moi, en tout cas, je sais que c'était mon refuge, dessiner, parler avec mes poupées, mes peluches, etc. Et je sais que ma mère, qui avait commencé un peu des livres, elle lisait beaucoup de psycho et tout ça, et comme il y avait beaucoup de violence dans mon enfance et tout, elle regardait comment je vivais ça via le dessin. Donc finalement, je pense qu'elle m'a aussi donné cet attrait pour le thérapeutique dans le dessin.
Tu parles de médium. C'est un moyen aussi de communiquer aux autres, peut-être des choses même qu'on n'arrive pas à décrire autrement en tant qu'enfant. Je veux dire, qu'on est bouleversé par des émotions, qu'on est aussi... témoin de choses violentes, le dessin permet peut-être de se faire comprendre à soi-même et puis peut-être aux autres ce qu'on vit, ce qu'on ressent.
Complètement, et puis d'ailleurs aujourd'hui j'anime des ateliers, et quand j'anime mes ateliers c'est du dessin thérapeutique, on dira. J'aime pas trop le terme thérapeutique parce que moi je suis pas un thérapeute, une thérapeute, mais j'estime qu'en fait, on peut contourner le verbal quand on n'y arrive pas, quand les mots ne sortent pas ou pas tout à fait correctement, parce que je ne suis pas très à l'aise à l'oral. Et Et je me dis, en fait, quand j'anime mes ateliers, c'est vraiment un moment où c'est le dessin qui est au centre. Et après, on n'est pas là en train de dire, ah, tu as dessiné un ballon rouge, ça veut dire que nanana. On n'est pas là à interpréter ou surinterpréter. Et vraiment, pour moi, c'est la clé, en tout cas pour moi et pour d'autres comme moi, le dessin de la communication, surtout quand on a des blessures.
D'ailleurs, merci hein, d'avoir accepté l'invitation. Parce que, comme tu le disais, c'est un terrain où t'es pas forcément très à l'aise. T'as choisi bah voilà, le dessin, pas par hasard, quoi.
Merci.
Moi, j'avais une question. Comment décrirais-tu ton univers?
Alors, mon univers, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la naïveté. Parce que quand je regarde un peu ce que les autres font ou quoi, je me dis, ouais, ils ont un trait plus affirmé, ils respectent plus la perspective et tout. Et moi, en fait, j'ai réussi à me détacher de cette technique, alors que bah, j'ai un cursus universitaire très technique dans le dessin. Et je dessine naïvement. Que je ressens, je le dessine. Et ensuite, le deuxième mot qui me vient en tête, c'est intime, comme vous l'avez dit au tout début. Et c'est vraiment cette question de me mettre à nu. D'ailleurs, je suis souvent nue sur mes dessins, avec mon alter ego. Et c'est voilà, l'intime et le naïf.
Tout à l'heure en off, tu parlais justement de représentation évidemment symbolique, mais c'est pas toi donc, c'est ton alter ego, c'est.
Je pense que c'est moi, mais un moi dissocié. Sinon, j'oserais pas dire tout ce que je dis sur les réseaux, en public et tout ça. Et surtout que j'ai appris dans la pudeur. Ma vie a été très, enfin, je sais pas comment dire, mais oui, on m'a appris à être dans la pudeur, d'être pudique, parce que bah, une meuf, elle se doit d'être à sa place, elle se doit de faire comme ci, comme ça. Bon, après, ça, on me l'a appris dans mon éducation familiale, mais aussi à l'école, etc. Et j'ai encore du mal à me dire, ok, je vais assumer que c'est 100% moi et dire tout ça sur moi.
Par contre, la perception que les gens vont avoir, ça va être de toi. Les gens vont penser, premier degré, hein, que ce personnage dit, c'est toi, quoi.
Complètement. Mais ça, je l'ai capté il n'y a pas longtemps, en fait. Je me suis dit, ah, mais en fait, les gens ne sont pas dans ma tête. Et d'ailleurs, dans mes derniers dessins, parce qu'il y a une série qui s'appelle Déraciné que je fais depuis 2017-2018. Au début, le personnage, donc moi, j'étais sans poils, sans tatouages, sans rien. Et maintenant, j'ai mis mes tatouages, mes poils, mes vergetures et tout. C'est vraiment représentatif de moi à 100%. Et c'est là où je me suis dit, bon, c'est un premier pas vers dire que c'est pas ton alter ego, mais c'est toi.
Alors écoute, bienvenue au club du. Les gens sont pas dans ta tête en fait.
Mais pourquoi?
Ouais, pareil, ouais, je comprends pas qu'on comprenne pas ce que je suis en train de penser, toi, par exemple. C'est fou, quoi. Alors c'est vrai que tu parles d'illustration intime, hein, tu parles d'images de toi, ou puisque tu parles de tes tatouages, par exemple, ou d'images qui viennent de l'intérieur. L'intimité, c'est aussi un monde intérieur, hein, tu vois.
Je dirais que l'intimité, oui, en effet, c'est un monde intérieur et c'est pour ça que, bah, notamment dans cette série Déracinée, il y a des souvenirs du Liban, de là où ma famille vient et d'où je viens, même si je suis née à Paris. Il y a des rêves dans cette série aussi, des choses qui m'appartiennent et que je décide de partager avec tout le monde, en fait. Notamment connaître des chants typiques du Liban que je connais pas du tout, genre. Ou aller à la montagne comme on allait avant. Enfin, je m'invente des souvenirs. J'ai des souvenirs ancrés dans le passé et je m'invente des souvenirs pour un futur probable.
Donc c'est un mélange, je dirais, d'autobiographie, d'allégorie et quelque chose d'un peu plus sensoriel peut-être.
Oui, complètement. C'est vraiment. Bah, c'est une psychothérapie autonome, quoi, je dirais. Même si je suis suivie à côté.
Il y avait déjà la guerre. Je suis née en 76. La guerre a commencé au Liban en 75. Mais après ça, j'ai vécu la guerre récente. C'était dur, mais ça a fait de nous ce que nous sommes, un peuple fort. C'est un peu un peuple qui peut vivre dans toutes les circonstances. C'est parce qu'on a vécu vraiment trop. Puis on a appris ça de nos parents, parce qu'ils ont vécu la guerre, eux autres de leurs parents.
1990, j'avais 10 ans. Tu ne peux pas oublier la voix des bombes, le bruit des bombes.
Je suis certaine qu'on va s'unir et là, le Liban va connaître la vraie révolution.
Au pays des cèdres, il y a le vent et le parfum des arbres. Les racines du Liban, les témoins millénaires de l'histoire. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, l'anniversaire de l'indépendance du Liban.
Malgré tout ce qui se passe dans notre pays, il faut lutter. Le cèdre, ça a beaucoup de sens. C'est l'immortel, c'est le futur. Donc c'est pour dire qu'on est là.
J'espère que ce pays reste toujours éternel, comme le cèdre. Nous, nous sommes là aujourd'hui, peut-être que demain, nous ne sommes pas là. Mais le pays doit rester, les autres vont continuer, et le cèdre est toujours là.
Le proverbe, les Libanais aiment la vie, c'est très vrai. On aime la vie malgré tout. La majorité a perdu espoir. Mais moi, je n'ai pas perdu espoir dans le Liban.
Et du coup, quelles sont les matières qui nourrissent ton imaginaire visuel? Est-ce que ce sont des photos de famille, des motifs, des gestes?
Je dirais que c'est le flou. Vraiment, c'est le flou parce que peu importe ce qui se passe dans ma tête, c'est flou. Mes souvenirs d'enfance sont flous, c'est des flashs flous, tout est flou en fait. Et même quand je me projette, j'ai pas cette capacité. Apparemment, les gens, quand ils rêvent en images. Et moi, je ne rêve pas en images, je rêve en sensations. Et du coup, en fait, tout est flou. Et quand je dessine, c'est pour rendre plus net ce flou. C'est vraiment ça, mon parti pris quand je dessine. Et c'est genre, j'ai une sensation, genre ma mère qui m'emmenait à la montagne au Liban. Et je me dis, ok, bon, bah, invente des images qui représentent ça.
T'as mis combien de temps pour te rendre compte que tout le monde pensait pas en flou?
C'est là, il y a genre un mois, je me suis rendu compte. Vraiment, c'est le thème de ma vie en ce moment. Et ouais, je pensais que tout le monde pensait en sensation, mais en fait, non, il y a des gens qui pensent en image, quoi.
Comment arriver à traduire, justement, rendre net pour tout le monde, en fait, tu vois, ces sensations, faire le focus, en fait, sur ces sensations, c'est la réalité de ce que t'as dans la tête.
C'est là où la notion de lâcher prise intervient, c'est que vraiment, je me dis, si mon dessin est interprété de différentes façons, c'est pas grave. Je veux que ça parle aussi aux gens, et les gens, ils n'ont pas exactement mon expérience ou mon vécu. Donc je me dis vraiment, c'est pas grave s'ils captent pas. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien quand je l'ai fait, et ça va créer des trucs trop chouettes que je maîtrise pas, et c'est cool.
Est-ce que justement, c'est pas le cœur de l'art qui est que ça nous appartient plus, quoi, au bout d'un moment? Après, c'est un peu à chacun, chacune, un peu de l'interpréter, de se le réapproprier quelque part.
Oui, complètement. Ouais. Et puis même, tu dis ça et ça me fait penser à mon corps dans la rue, en fait, tout simplement. Est-ce qu'il m'appartient? Ouais. Est-ce qu'il m'appartient plus? Et comment je me réapproprie mon corps alors qu'on le sexualise? Ou alors, comme je suis une personne grosse, les gens m'exècrent, etc., etc., en fait. Et en fait, c'est, pour moi, en tout cas, c'est vraiment se détacher du regard des autres, se nourrir de ce qui peut nous servir et le reste, on le met de côté, quoi.
Sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y a pas de place pour les fables, y a pas de place pour les regrets. Cœur sur le sol, relève-toi, faut pas déconner. J'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Ah, j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Ah, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Maison, quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Le regard des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger?
J'ai pas de mots quand je pense à un dessin. C'est vraiment ça. Pour, j'ai essayé de faire un exercice créatif sur un oracle. Et j'ai mis un mot égale une carte. Et en fait, j'ai fait ma liste de mots, 33 mots. J'ai fait 33 cartes. J'ai revu les cartes en relisant les mots. Ça n'avait rien à voir. Vraiment, je suis incapable de réfléchir en mots.
Et est-ce qu'il y a des images qui t'ont marqué dans ton enfance ou plus récemment, qui ont façonné ta manière de représenter ton intimité?
Oui, il y a le mouvement body positive, le vrai, entre guillemets, celui, je vais pas critiquer, mais celui avec des personnes grosses, poilues, racisées, etc. On n'est pas obligé d'avoir tous les items, hein, mais on se comprend. Et ce mouvement body positive m'a fait me dire, en fait, waouh, mon corps existe quelque part autrement que dans ma chambre, en fait. Il y a beaucoup de ça, parce que comme moi, je représente beaucoup mon corps nu, c'est vraiment le mouvement body positive qui m'a marqué dans ce process.
Quand tu te dessines et que tu mets en scène l'intime, tu sais, il y a une expression sur la carte politique de toi-même, d'autant que tu parles aussi du Liban. Est-ce que faire image de ce qui est souvent tu ou caché, c'est une manière de reprendre le pouvoir, de dire, c'est moi et ça, c'est politique?
Complètement. C'est en 2016, par là, j'avais vu un documentaire sur le féminisme des années 70. Et à un moment, il y a un slogan, l'intime est politique. Et en fait, ce slogan, il ne me lâche pas parce qu'en fait, déjà pour moi, tout est politique. Mais en plus, je fais de l'intime. Et revendiquer, comme tu dis, reprendre le pouvoir de mon intimité telle qu'elle est, c'est politique en fait, c'est une reprise de pouvoir, c'est exactement ça.
Est-ce que ça a un impact aussi sur ta vie? Parce que, comme tu le disais, t'as ton alter ego qui peut vivre aussi et dire des choses que toi, t'as peut-être un petit peu plus de mal à dire et à faire, mais... Dans la vie, est-ce que t'arrives à réaliser ce pouvoir, quoi?
C'était un peu compliqué parce que j'ai subi des violences conjugales à un moment dans ma vie. Et je me disais justement, je me suis posé cette question, je me dis mais pourquoi je fais la meuf sur Insta à poster des dessins de moi hyper revendicatifs, etc. Et dans ma vie personnelle et intime, je suis autant dans la galère. Et du coup, il y avait vraiment cette double peine, la culpabilité en plus de subir tout ça. Et du coup, je me suis dit, que bah, j'avais encore du travail à faire, etc. Et par exemple, par rapport à cette histoire de violence conjugale, bah, j'en ai parlé sur Insta. Et j'ai dit, mais en fait, l'intime, c'est vraiment l'intime. C'est pas que de la représentation publique de mon corps ou de pensées inexistantes, entre guillemets, enfin pas matérielles, qui viennent de ma tête. Et du coup, en commençant à parler des violences conjugales que j'avais vécues, je me suis dit, mais en fait, l'intime, ouais, c'est tout, quoi. Et donc, j'ai commencé à parler de plein de choses, notamment de mon handicap.
C'est pas juste des slogans, en fait. Et d'ailleurs, c'est courageux, je trouve, d'en avoir parlé. Parce que tu peux aussi rester dans une posture de personne un peu badass, comme ça, alors que tu galères, comme tu dis, dans ta vie privée. Et le thème des violences, c'est jamais simple.
Franchement, c'était dur parce que ben, y a cette honte, en fait, de se dire, ouais, j'ai vécu ça alors que je suis féministe depuis 10 ans. Enfin, j'ai toujours été féministe, mais militante féministe. Et tu te dis, ouais, c'est la honte, j'ai vécu ça, alors que c'est pas la honte, en fait. Mmh. Puis comme on a entendu récemment, la honte doit changer de camp. Et moi, j'ai décidé de le faire via des dessins, en fait, encore. Ça m'a aidé. Et là, pour une fois, je mettais des légendes à mes dessins où j'écrivais. Je me forçais, c'était une violence pour moi, mais une violence nécessaire et bénéfique, à dire, ben voilà, j'ai vécu ça, ça m'a fait ça. Et bah, la personne qui va lire ces mots, si tu le vis aussi, t'es pas seule. Comme moi, je suis pas seule, en fait.
J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai l'éclat de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai l'éclat de la raison. Je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, ouais. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison.